Place publique.
Avant de passer à table, on
place publique.
Avant de passer à table, oui, on va passer à table. On vous parle de viande, mais pas de n'importe laquelle. On vous parle de viande suisse.
Et apparemment, personne ne sait rien sur la manière de la produire. On cuisine un boucher sur la question dans un instant.
Moins de graisse et plus de muscles, c'est ce qui attend les futurs candidats à la protection civile, qui doit évoluer vers plus d'efficacité. Fini donc la rigolade à la PC. C'est en tout cas le but poursuivi par les experts de la question qui étaient réunis hier et aujourd'hui à Neuchâtel.
Des experts qui ne veulent toujours pas imposer aux femmes l'obligation de servir à l'armée ou à l'APC, dommage ou pas.
Il faut aussi dégraisser les loyers. C'est en tout cas la volonté de l'Association Suisse des Locataires. Son initiative a déjà fait un carton au niveau des signatures. Nous verrons ce qu'elle pourrait changer à Neuchâtel.
Et comptez sur moi pour vous faire la visite d'appartements disponibles en ce moment dans le canton de Neuchâtel. Nous évaluerons avec notre invité si le marché exagère ou non.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Ça vous va bien, Nadia, le rôle comme ça de guide immobilière?
D'agent immobilière, vous trouvez?
Ouais, d'agent immobilière.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous et bienvenue dans Place Publique.
Bonsoir, la viande suisse, bonsoir. On commence par ça, il n'y en a point comme elle. En tout cas, c'est le message d'une campagne de promotion et d'information lancée ces jours-ci, un peu partout sur vos écrans, pour expliquer aux consommateurs du pays combien les beefsteaks made in Switzerland valent mieux que la concurrence étrangère. Alors au niveau du bien-être des animaux, de l'impact sur l'environnement, du respect des lois, etc. De quoi donc inciter normalement tout un chacun à privilégier la viande suisse et à payer le prix juste? On reçoit pour en parler Cédric Junot, vous êtes boucher à Lanneville, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous avez participé à la campagne de promotion d'information en jouant même le rôle de boucher qui est votre vie, votre métier, dans une vidéo que nos auditeurs pourront découvrir. Alors apparemment, personne ne sait rien sur la viande suisse, comment on la produit, et pourtant, je pense que beaucoup encore en mangent régulièrement ou quasi quotidiennement. Comment on peut l'expliquer, une telle ignorance?
Alors, je pense que l'ignorance, c'est un peu un grand mot. Je pense que beaucoup de gens, ils vont surtout dans les grandes surfaces pour un petit peu prendre la viande. Ils la prennent. C'est une question de prix. Et puis, ils ne puissent pas...
Donc, du coup, le fait d'aller acheter sa viande en grande surface dans des barquettes, ça aseptise un peu la réalité. On se rend plus compte d'où elle vient.
Oui, c'est un petit peu dur à s'imaginer, parce que c'est vrai que c'est des murs complets de viande. Et puis, on n'a pas toute l'histoire que l'animal a derrière. Chez nous, par exemple, maintenant, chaque semaine, on reçoit du bétail. Elle a une histoire. C'est un animal, on peut parler avec l'éleveur, on sait comment elle s'appelait, on sait comment elle a vécu. On a une histoire derrière chaque morceau. C'est aussi ça qui est intéressant.
Et vous la racontez, vous essayez de la raconter quand vous avez un contact avec vos consommateurs?
Alors oui, effectivement, on la raconte de plus en plus. Maintenant, au magasin, on nous demande quand même souvent d'où c'est que ça vient, comment elle a été élevée, comment elle a été nourrie. Et puis là, on arrive toujours bien à répondre.
Vous sentez donc une attente du consommateur qui a besoin de plus d'informations? C'est dû aussi, on imagine, au scandale alimentaire qui nous touche aussi, parce qu'on a de la viande suisse et étrangère qui a été touchée par exemple, les histoires de vaches folles, par le Lasagnegate.
Ouais, typiquement, les lasagnes aussi, pour moi, c'est un grand scandale, parce que c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance aux gens. Et puis ce manque de confiance, ça se répercute sur nous après, sur les petits commerçants. Parce que les gens ont plus trop confiance, disent « ouais, de toute façon, c'est pas ce qu'on voulait ». Et puis, ils peuvent aller en grande surface chercher après.
Alors, une campagne de promotion qui tombe à un moment où, on peut le dire, les réseaux sociaux donnent à voir souvent des images insoutenables d'animaux détenus dans des conditions effroyables. Donc, vous devez d'autant plus faire valoir votre message que tout se passe au mieux.
Oui, alors maintenant, on voit beaucoup de ces vidéos qui tournent, des abattoirs sont filmés clandestinement, typiquement sur les pages pour les véganes. C'est quand même une forme d'extrémisme, parce que pour nous, ils filment vraiment tout et puis ils montrent que le plus mauvais. Parce que c'est vrai que même si on regarde une bête qui est abattue proprement dans les normes en Suisse, même là, c'est quand même des images fortes pour les gens. Alors ils jouent vraiment sur cette image, abattre un animal, c'est pas bien, manger pas de viande, et puis je trouve que c'est dommage.
Le véganisme, vous en avez parlé, c'est aussi une tendance assez lourde, en tout cas qui ne fait qu'augmenter. On en parle de plus en plus. Est-ce que ça aussi, ça joue en votre défaveur?
Alors ouais, comme dit, c'est très très tendance. Moi, j'en connais des gens, je côtoie des végétariens avec qui je peux très bien parler. Ils viennent des fois à la boucherie, ils vont aussi chercher de la viande pour leur famille. Mais les véganes, par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus extrémiste. Et puis, on a un peu la peine à parler un avec l'autre. C'est vrai que c'est...
Donc, un message important, la qualité de la viande suisse. Alors, pour savoir si réellement on fait mieux ici en Suisse qu'ailleurs, Nadia, vous avez souhaité tout savoir sur la vie de Marguerite.
Bah oui, Marguerite, hein, une vache à viande qui vit des jours paisibles dans une ferme de l'Arc jurassien. Alors, après Martine à la plage, voici Marguerite à la ferme. Avec la nouvelle hein, campagne de viande suisse, alors elle m'a émue cette campagne. Et puis on va simplement découvrir la vie de Marguerite. Alors Marguerite, elle naît dans une ferme de l'Arc jurassien. Elle est choyée par sa mère, elle est un petit peu délaissée par son père quand même. Elle va devenir quoi? Elle va faire quoi de sa première année de vie, Marguerite?
Marguerite, c'est un beau petit nom, hein, d'habitude.
Toutes les vaches s'appellent Marguerite.
Ouais. Non. Vous parlez notamment de la vache elle-même, parce que nous on garde quand même beaucoup les vaches pour le lait.
Alors la vache qu'on va manger, ouais, Marguerite qu'on ouais. va manger, parce qu'on l'aime tellement.
Ouais, d'accord. Donc on va peut-être sur du bœuf, hein, donc des petits bœufs.
Donc ce sera Marguerite.
Marguerite, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Il sera donc nourri, donc soit c'est de la viande de veau.
Donc c'est quand même très important de dire que c'est un mâle qu'on mange et pas une femelle.
Oui, parce que d'abord il y a quand même le veau aussi avant. Alors il y a la viande de veau, la viande de bœuf. La viande de veau est abattue justement bien avant le bœuf, c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus clair, parce qu'il a beaucoup plus de lait, donc un peu moins d'herbes et de foin. Et puis, bon, bref, une fois qu'elle était élevée, puis qu'on a un poids qui nous convient, bien l'âge minimum aussi, ça part à l'abattoir.
Alors justement, Marguerite, vu que c'est un homme maintenant, il va aller dans les pâturages, il va brouter, il va manger, il va grandir. Il va vivre jusqu'à quel âge avant d'être abattu?
Ouais, c'est toujours un peu difficile à dire, parce que nous, on regarde surtout sur le poids. Surtout sur le. Il y a des bouchers qui aimeraient qu'ils fassent ce poids-là. Nous, on veut un autre poids. C'est par rapport au poids. Puis l'éleveur aussi, il a des places qu'il garde. Puis il sait, bah là, dans 2 semaines, comme ça, je vais le donner. Puis je mettrai un autre petit pour le nourrir, pour l'élever.
Et puis donc, le jour tant attendu approche, hein, pour nous, pas pour Marguerite. Il va faire sa dernière sortie. Est-ce qu'un animal peut sentir quand il va mourir?
Oui, alors ça dépend comment on le transporte, surtout. On le voit beaucoup, le stress, la fatigue. C'est pour ça que aussi en Suisse, on a des législations, des règles très précises de 6 heures maximum de transport. C'est le trajet Genève, traverse la Suisse, en fait. Et puis là, on voit qu'il y a le stress déjà. C'est aussi pour ça que souvent, il faut encore une nuit à l'abattoir avant, pour enlever le stress. Parce qu'on le voit aussi quand nous, on travaille la viande, après, pour nous quand on produit, on le voit tout de suite, un animal qui était stressé. C'est une autre viande, on voit qu'il y a eu, une maladie, il y a eu quelque chose.
Elle est moins bonne?
Elle est moins bonne, ouais, clairement.
Alors du coup, il est emmené à l'abattoir, il dort une nuit. Il va être tué comment?
Alors d'abord, il va être étourdi. Donc c'est vraiment pour qu'on le comprenne, qu'il tombe dans les pommes. Et ensuite, il y aura la saignée. Donc ça sera quand on va le couper. Et puis, qu'on va attendre qu'il se vide du sang. Et puis après, depuis là, il y a tout un processus chimique qui va arriver dans la viande, qui va se désenzymer.
Et puis une fois que, on va rester sur Marguerite, j'aime bien ce prénom, ouais. Que Marguerite arrive chez vous, vous la recevez sous quelle forme?
Alors, vu que moi, c'est mon oncle et mon cousin, la boucherie à Corgémont, qui fait l'abattage pour nous. Nous, on le reçoit une fois par semaine, coupé en deux. En fait, vidé, coupé en deux. On reçoit les abats aussi avec, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent encore des abats. Et depuis là, on a des processus différents pour le quartier de devant, quartier de derrière, suivant ce qu'on fait comme morceau. On rassit des morceaux sur l'os. Il y a tout, chaque morceau a une histoire, et puis on peut toujours un petit peu changer.
Pardon, Nadia.
Encore ma dernière question, ensuite je vous laisse parler, Gabriel. Vous utilisez toutes les parties de cet animal?
Alors oui, c'est le but, puis ça vient surtout à la mode maintenant. Ils disent le nest tout all, c'est vraiment pour la queue au museau. De tout manger. Et puis c'est vrai que chez nous, dans des boucheries spécialisées comme nous, on a les abats, on a tout. Et puis les gens, ils savent qu'il n'y a plus que chez nous, on peut trouver ça.
Vous, de raconter cette histoire, est-ce que vous avez maintenant l'habitude de cette réalité? Bah oui, les animaux qu'on mange, et on doit les tuer, ils ont une vie, ils ont une mort. Parfois, ça intervient très tôt. Est-ce que ça vous impressionne toujours, ces images, cette réalité, ou vous êtes complètement fait à ceci?
Non, moi, je suis quelqu'un qui est assez très ému avec les animaux, parce que ce qui est assez blessant, des fois, je trouve, c'est que les gens ont beaucoup de respect pour la viande, dans le sens qu'ils achètent des fois trop, en sachant qu'ils vont jeter. Et puis, moi, je trouve qu'un animal qui a offert sa vie pour nous, il mérite d'être mangé complètement.
Est-ce que les gens comprennent votre message une fois que vous leur racontez l'histoire de René ou de Marguerite? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait du chemin avec eux?
Oui, alors on peut expliquer. Tout le monde va toujours dire oui, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent notre côte puis du filet. Et puis tant qu'on change pas nos habitudes, on a ce problème.
Cédric Junot, merci d'être venu nous parler de la filière de la viande suisse. Vous êtes un des héros de la campagne de promotion et de communication de Viande Suisse pour dire les bienfaits de la production indigène de viande, pour conseiller aussi les consommateurs à choisir le bon produit et bien sûr le bon prix, parce qu'il est aussi question de prix.
Et nous, on s'informe tout de suite avec Jean-Paul Picci.
Bonsoir. L'hôpital neuchâtelois ne figure pas parmi les meilleurs élèves des hôpitaux suisses. L'enquête menée par l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques suisses et qui porte sur la satisfaction des patients montre que l'HNE porte parfois le bonnet d'âne. De manière générale, le site Chaudefonnier s'en sort légèrement mieux que pour Thalès. En moyenne, les établissements privés dépassent aussi les hôpitaux publics. Chiffre détaillé à retrouver sur rtn.ch. Pro Juventute Arc Jurassien lance un nouveau programme pour venir en aide aux familles. L'association a créé 7 fonds pour soutenir financièrement les vacances, le social, la première nécessité, la culture, les activités sportives et la mobilité. Ces fonds sont financés par la vente de timbres et d'accessoires de l'association. Pro Juventute espère récolter 300 000 francs et aider environ 4 000 familles de la région. On tourne en rond depuis ce midi à Vaucéillon. Le giratoire a été mis en service dans sa configuration définitive à midi. Il ne reste que quelques travaux à réaliser comme la pose de candélabres. Définition prévue hors trafic d'ici à la fin du mois. Les Suisses accepteraient la sortie du nucléaire. C'est ce qui ressort de 2 sondages publiés aujourd'hui. Pour la SSR, près de 57% des votants diraient oui à l'initiative des Verts pour la fermeture de toutes les centrales d'ici 2029. Tamedia avance, lui, le chiffre de 55% de personnes favorables. La votation a lieu le 27 novembre. Union Neuchâtel se renforce. Les dirigeants du club de basketball de Liga annoncent aujourd'hui avoir engagé Zoran Kristanovic. Le Serbe de 34 ans mesure 2m06 et évolue au poste 4. Il sera à disposition de son coach dès demain pour la venue de Lugano. Enfin, météo, temps sec ce soir et cette nuit, avec toutefois la formation de grisailles dans les basses couches. Demain, c'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Les températures seront très froides au petit matin, avec des gelées possibles jusqu'en pleine. L'après-midi, le thermomètre affichera entre 8 et 12 degrés selon les régions. Prochain flash d'information, c'est à 19h. Très belle soirée.
Place publique.
Et on continue avec notre deuxième thème, catastrophe naturelle, pandémie. La population suisse peut compter dans chaque canton sur le secours des sapeurs-pompiers, de la police, des services sanitaires d'urgence, mais aussi sur l'aide de la protection civile. Les hommes habillés de vert et d'orange, vous les avez peut-être déjà vus, qui ne font donc ni l'armée ni le service civil. Ça représente environ 1300 personnes dans le canton de Neuchâtel. Un service qui s'apprête à entamer une véritable mue, vous allez l'entendre. Une conférence consacrée à cette question s'est tenue hier et aujourd'hui en présence de nombreux experts et aussi du conseiller fédéral Guy Parmelin en charge du dossier. Alors l'avenir de la protection civile, est-ce que ça passe par moins de graisse et plus de muscles? C'est la question qu'on va débattre avec nos deux invités. Patrick Meucli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef de service à l'intérim de la sécurité civile et militaire dans le canton de Neuchâtel.
Exactement.
Et vous avez pris part à cette conférence. Et Alexandre Vautravers avec nous par téléphone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue militaire suisse, vous êtes aussi professeur de relations internationales à l'Université de Genève, et vous avez d'ailleurs lancé un master dédié à la question de la gestion des risques.
Oui, parce que de plus en plus, on se rend compte que le nombre d'organisations qui doivent intervenir dans un cas de catastrophe ou de crise augmente. Il n'y a pas que la protection civile, d'ailleurs il y a de plus en plus d'organisations professionnels qui interviennent, et donc de coordonner tous ces moyens, ça nécessite, comme vous l'avez dit, un peu de métier.
Mais la personne qu'on a entendue sur nos ondes, le vaudois Denis Fradevaux, chef du projet Protection de la Population 2015+, à savoir la réforme qui contient la réforme de la protection civile, a dit il faut que ce soit un petit peu plus sérieux cette histoire, moins de graisse, plus de muscles. Alors la question, je vous la pose à vous, Patrick Meucli, est-ce que la PC, comme on l'appelle, c'était trop souvent la planque, c'est fini la rigolade?
Non, ce n'est pas du tout la planque, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On a des cadres bien formés, on va d'ailleurs les former un petit peu plus sérieusement, dans le sens leur faire plus de jours de service, de façon qu'ils puissent un petit peu plus conduire leurs hommes.
Plus de jours, plus sérieux, ça veut quand même dire que pour l'instant, ça bat un peu de l'aile.
Non, On a des cadres très bien formés, mais on va encore mieux les former de façon à être encore plus crédibles. Comme l'a dit M. Vautravers, les catastrophes dans le monde se passent pas loin de la Suisse. Et depuis un certain temps, on se dit quand même qu'on va quand même faire un petit peu mieux pour justement avoir des gens beaucoup mieux, plus à l'aise par rapport à la formation.
Alexandre Vautravers, on a l'impression que le contexte actuel, on vient de l'entendre, pousse, incite la protection civile à faire un travail que l'armée ne cesse de faire depuis des années.
Voilà, depuis la chute du mur de Berlin, on n'arrête pas de critiquer l'armée, on demande des réformes, on demande de s'adapter, on demande de se professionnaliser, on demande de partir, se former ou alors pratiquer ce qu'on apprend à l'étranger. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on en est maintenant à la troisième réforme de l'armée depuis la chute du mur de Berlin. Et pendant tout ce temps, la protection civile a été un peu laissée de côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, et donc ça ne sert à rien de faire des jours de service à des gens si on n'a pas véritablement d'utilité, si on n'a pas une idée de manœuvre claire et précise, et si on n'a pas un système qui permet de former les gens. Donc le problème de la protection civile, essentiellement, c'est ça. Si on devait faire un état des lieux aujourd'hui, on dirait qu'il y a des gens qui ont énormément de bonne volonté, qui ont envie de servir, qui ont envie de faire quelque chose d'utile. Il y a des gens très très bien, il y a des professionnels aussi qui sont extrêmement compétents. Mais il faut bien se rendre compte que les autorités n'ont pas toujours pris la protection civile très au sérieux. Et aujourd'hui, il y a un manque de moyens, il y a un manque d'investissement et surtout, il y a un manque de vision.
Patrick Meucli, vous partagez cette analyse ?
Dans un certain sens, oui, mais je dirais quand même qu'à l'heure actuelle, il y a belle lurette, si j'ose dire, on a pris le taureau par les cornes et on essaye d'avoir quelque chose, d'avoir une vision dans le canton de Châtel pour avoir des gens qui arrivent à faire des cours de répétition. Donc pour le cours de répétition dans le canton, c'est 2 jours maximum par homme et par année. Donc effectivement, ça prend un petit peu de temps, mais on arrive à faire quelque chose de très bien à l'heure actuelle.
Bon, qu'est-ce qu'on doit leur faire faire à ces hommes, puisqu'on va l'entendre, il ne s'agit encore que d'hommes. Qu'est-ce qu'on leur fait faire comme mission prioritaire si on imagine, dans plusieurs années, une protection civile efficace ?
Alors, je rappelle que la protection civile, c'est le sauvetage de tous les êtres humains, les citoyens du canton de Châtel, parce que je vais prendre que la protection civile du canton. Donc, en premier lieu, il y a l'hébergement. Donc, vous avez un immense incendie dans un coin du canton. Eh ben, la protection civile est là pour héberger ces gens, les rendre, les mettre dans un abri à la limite, au moins qu'ils aient un toit pendant quelques heures. Et
mobilisable sur le champ. Il n'y a pas que ces 2 jours de cours de répète. Il y a aussi, on parle beaucoup de migration, on parle d'abri de protection civile comme solution, on va dire, immédiate d'urgence. Là aussi, ils sont mobilisables.
Alors, ils sont effectivement, on les a utilisés à plusieurs reprises lors des migrants qui sont arrivés dans le canton de Châtel. Ils ont préparé l'abri, ils l'ont mis en ordre. Et quand tout ça est fait, ben, ils rentrent à la maison.
Est-ce qu'il faut cesser, Patrick Meucli, avec des services à la collectivité qui paraissent un peu prétexte ou en tout cas qui peuvent délester les finances, enfin qui peuvent, on va dire, soulager les finances communales ou cantonales. Par exemple, on voit ces hommes en vert et en orange qui font de l'ordre dans les parkings lors de grands événements. Est-ce que ça, c'est encore dans les missions qu'on doit attribuer à ces hommes ou il faut un peu recentrer le tout ?
Alors, je rappelle juste une chose, c'est que la protection civile, dans tous les partenaires de la protection de la population, la protection civile c'est le partenaire privilégié de tous les autres partenaires, donc l'appui à la police, l'appui aux sapeurs-pompiers, mais je rassure, on ne va pas aller faire du parking, ça ne se fait plus.
Alexandre Vautravers, on l'a entendu de Patrick Meucli, il y a quand même une question d'argent qui est en jeu. Est-ce que vous pensez que les cantons, puisque c'est une affaire gérée au niveau cantonal, est-ce que vous pensez que les cantons ont suffisamment de moyens pour en faire un corps crédible ?
Alors, les cantons ont peut-être les moyens, mais ils ne les investissent certainement pas aujourd'hui dans la protection civile. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est que tout le monde part du principe que nous avons cette assurance collective qui s'appelle la protection civile. On part du principe que cet outil est là, qu'il est disponible, qu'il fonctionne. Et puis en réalité, on ne le teste pas suffisamment, on n'investit pas pour le rendre véritablement utile. En fait, c'est pas seulement le problème des cantons, parce que à l'origine, il y a un Office fédéral de la protection de la population qui, malheureusement, sur le plan fédéral, n'édicte que des directives. Et ces directives sont appliquées, je dirais, à la lettre dans certains cantons, dans d'autres, c'est un classement vertical, et puis on continue de faire exactement comme on faisait il y a 20 ans en arrière. Donc il y a une disparité des situations entre certainement un très bon exemple à Neuchâtel et puis d'autres exemples qui sont moins bons. Et puis, comme vous l'avez dit très justement, c'est pas seulement la Confédération, c'est pas seulement les cantons, mais aujourd'hui les principaux utilisateurs ou les demandeurs de la protection civile, malheureusement, ce sont aussi les communes. Et malheureusement, on se rend compte que les communes utilisent cette protection civile plutôt comme une espèce de main-d'œuvre bon marché, plutôt que d'engager des sécuritas ou d'engager des entreprises privées.
Juste, j'aimais juste un petit doute. Au niveau du canton de Neuchâtel, les communes ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a quand même une loi cantonale qui interdit à la commune, aux communes du canton, de faire justement prendre la protection civile pour aller balayer les rues ou des choses de ce genre. Donc c'est plus possible à l'heure actuelle. Donc on a quand même à l'heure actuelle regardé un petit peu plus loin que nous.
En tout cas, vous, Nadia, ce n'est pas la protection civile que vous auriez voulu faire, apparemment. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé, c'est plutôt l'armée.
C'est ça. C'est justement ça, vous avez raison. Alors, l'obligation de servir, les femmes en sont exemptées. Ce n'est pas obligatoire et à en croire les Suisses, ça ne doit jamais l'être. Alors, dans mes jeunes années, lorsque j'avais 15 ans, l'armée était pour moi super importante. Porter un uniforme, marcher des heures avec 20 kilos. Je me perds tellement c'est incroyable pour moi. Non mais oui, ramper dans la boue, me faire crier dessus, ça avait l'air tellement cool. Alors j'étais presque triste que ça ne soit pas obligatoire pour moi, puisque on le sait très bien, les humains normaux, ne font pas grand chose qui ne soit pas contraignant ou contraint. Alors j'en étais même arrivée à regretter d'être une fille juste pour l'armée. Et puis j'ai grandi. J'ai terminé mon école obligatoire en enchaînant avec une école supérieure et puis j'ai partagé ma vie avec un garçon qui lui a dû la faire, cette armée dont j'avais tant rêvé. Alors j'étais jalouse au début que lui il ait cette obligation de servir, de protéger son pays en cas d'attaque ou de catastrophe, alors que moi j'en étais réduite à faire la fille. Celle qui attend le retour de son bien-aimé, celle qui fait les tâches mignonnes, celle qui, si le malheur nous frappait, ne serait utile qu'à pleurer et soigner. Et puis les mois ont défilé, puis je le voyais, le regard de mon amoureux, je le voyais devenir de plus en plus fatigué, de plus en plus sombre. Il a fait le service long. Alors l'euphorie, elle était passée, la réalité nous a rattrapés. Et puis pourquoi quitter ses proches pendant tant de temps? Pourquoi se ruiner le sommeil? Pourquoi parcourir tant de kilomètres? Alors que finalement la Suisse, elle n'a jamais été menacée, elle n'est pas en guerre. Je me suis dit qu'être une fille, c'était vraiment une chance. Et j'ai suivi mon parcours, j'ai pu continuer mes études sans interruption, j'ai pu voyager, j'ai pu dormir, lui pas. Alors, j'ai quand même cherché la vraie raison pour laquelle les femmes n'ont pas l'obligation de servir. Et je crois que j'ai trouvé, imaginez juste un instant, 50 nanas ensemble pendant plusieurs mois dans une caserne. Non, vous avez raison, c'est impossible.
Merci Nadia de votre regard sur l'obligation de servir à la sauce féminine. Alexandre Vautravert, on l'a encore vu cette semaine, pas d'obligation à l'ordre du jour pour les femmes au niveau du recrutement et ça risque pas de changer avec la commission de sécurité du National qui a écarté ce scénario. Comment vous évaluez la place des femmes par rapport au service obligatoire en Suisse? On sait qu'il y a d'autres pays qui le pratiquent.
Alors peut-être pour rester dans le sujet qui est quand même la protection civile, mais je dirais par analogie à votre question sur l'armée, les femmes peuvent tout à fait servir dans la protection civile, soit à titre volontaire, mais également dans les fonctions professionnelles de la protection de la population ou de la protection civile. Donc il n'y a pas de barrière, si j'ose dire, qui empêche les femmes de servir si elles le souhaitent.
Même si on voit que pour cet été, par exemple, sur 7300 recrues, là je parle de l'armée, 70 femmes étaient admises. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'on devrait quand même encourager davantage d'implication féminine?
Alors, suffisant, je ne sais pas quoi vous répondre, mais 70 sur environ 7000, c'est quand même un ratio qui est beaucoup plus élevé que, disons, il y a 10 ans en arrière. Donc, je ne vois pas où est le problème. Encore une fois, c'est à titre volontaire. Si vous regardez les exemples au-delà de nos frontières où, malheureusement, les armées se sont professionnalisées et donc on a essentiellement des volontaires qui servent, on est à peu près dans ces mêmes ratios. C'est très, très faible. Je dirais qu'il faut se féliciter que la Suisse ouvre ses portes aux femmes dans toutes les fonctions, ce qui n'est pas le cas dans toutes les armées, d'une part. Deuxièmement, elles peuvent servir dans la protection civile, d'autres fonctions leur sont ouvertes.
Vous partagez le point de vue de Nadia, 50 femmes ensemble dans une même caserne, ça paraît difficile. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a une autre vision du management ou de la conduite si on imagine une plus grande mixité?
Bon, écoutez, jusqu'où est-ce que vous voulez aller en termes de mixité? Je pense que ce sont quand même des organisations qui doivent délivrer un résultat et qui doivent être prêtes, qui doivent être fonctionnelles. Donc je vois pas tellement où les considérations, si vous voulez, de politiquement correct et de diversité entrent en ligne de compte. Vous demandez pas, par exemple, aux pompiers ce genre de questions. Vous avez une prestation à fournir. Finalement, que votre infirmier ou une infirmière soit d'un sexe ou de l'autre, c'est pas tellement ça qui compte.
Patrick Meucli, des femmes dans l'armée ou à la protection civile dans le canton de Neuchâtel?
Alors, dans le canton de Neuchâtel, il y a environ une dizaine de femmes qui représentent l'unité psychosociale du canton et dans les protections des biens culturels.
En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'avenir, avant tout de la protection civile, qui était l'objet de discussions pendant 2 jours à Neuchâtel, à l'enseigne de la conférence sur la protection de la population. Merci Alexandre Vautravers, merci Patrick Meucli. Bonne suite de soirée, bon week-end.
À vous aussi, bonne soirée.
Merci à vous.
Place publique.
Vous ne comprenez pas pourquoi les loyers ne cessent de prendre l'ascenseur? Comment faire pour lutter contre cette tendance? Eh bien, vous aurez votre mot à dire dans les urnes prochainement. En effet, l'Association suisse des locataires, la SLOCA, a déposé cette semaine son initiative pour davantage de loyers modérés, avec quelques 125 000 signatures récoltées en plus d'un an. Le texte propose notamment que 10% des loyers nouvellement construits soient des logements d'utilité publique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un loyer modéré? Est-ce que ça aura vraiment l'effet escompté? Est-ce utile dans un canton comme celui de Neuchâtel? On en parle avec notre invité, Baptiste Urny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député au Grand Conseil neuchâtelois, mais vous êtes surtout ce soir présent en qualité de membre des comités neuchâtelois et suisses de l'association suisse des locataires, la SLOCA. Alors, première question toute simple, comment on définit un loyer modéré? Tout est relatif.
Alors, tout est relatif. Il y a des normes de l'Office fédéral du logement qui définissent le loyer modéré. Donc, un loyer peut être modéré quand on le retire de l'aspect spéculatif. Et c'est surtout ça que vise à faire cette initiative, c'est que 10% des logements, des nouveaux logements créés en Suisse, soient sortis du marché spéculatif parce qu'on sait bien que c'est celui-ci qui renchérit les prix et c'est celui-ci donc qui renchérit les loyers.
Il n'y a pas de loyer médian derrière cette définition de loyer modéré, c'est juste des loyers qui restent stables.
Alors, il y a encore une fois l'Office fédéral du logement. Eux, ils utilisent finalement les chiffres statistiques pour définir par région qu'est-ce qu'un loyer modéré. C'est des normes, c'est assez technique pour les définir. Je pourrais vous en parler beaucoup plus longtemps, mais je crois qu'il me faudrait un tableau pour vous faire quelques dessins.
Alors, on va éviter ça. Les pouvoirs publics, cantons et confédérations doivent assurer que 10% des logements nouvellement construits soient d'utilité publique. Qu'est-ce que vous entendez par ces mots utilité publique?
Alors, un logement est d'utilité publique s'il est à loyer modéré, comme on vient d'en discuter, et si, deuxièmement, il est en main d'acteurs d'utilité publique. Les acteurs d'utilité publique, c'est au fond tous les acteurs sur le marché du logement qui ne font pas de bénéfices. On vise avant tout les coopératives.
Les coopératives. Très bien. Pour y parvenir, les cantons et la Confédération auraient une priorité d'achat pour des immeubles ou des terrains, notamment pour des biens appartenant à la Confédération ou aux ex-régies fédérales. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, vous voyez un réel potentiel?
Alors, il y en aurait eu un évident sur le plateau de la gare, où les CFF l'ont valorisé à prix d'or, et alors qu'on sait que dans la capitale neuchâteloise, il y a une crise des loyers. Il pourrait y en avoir d'autres selon les différents projets des CFF, notamment dans le canton de Neuchâtel. Et puis, juste quand même pour être précis, c'est pas un droit de priorité d'achat, c'est pas un achat facilité, c'est un droit de préemption. C'est-à-dire de dire, finalement, si un acteur privé veut vendre à un autre privé, eh bien l'État a le droit d'acheter aux mêmes conditions que ce privé. C'est simplement pour que si un État, une commune a un projet d'utilité publique, s'il y a un endroit stratégique pour faire des logements d'utilité publique, il ait le droit d'acheter comme un privé.
Est-ce qu'il y a un risque de creuser l'écart avec des loyers modérés qui seraient donc assurés par cette initiative et les autres loyers qui flamberaient d'autant plus?
Non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que dans les régions de ce pays qui ont une grande part de loyers d'utilité publique, ça tire tout le marché vers le bas. C'est notamment vrai dans la région zurichoise qui connaîtrait la même crise que Genève si elle n'avait pas beaucoup de coopératives. Puis pour vous donner un exemple très neuchâtelois, il y a des logements d'utilité publique qui ont ouvert dans le canton de Neuchâtel récemment, c'est au Val-de-Rue, c'est la coopérative des Héliotropes. Eh bien, un des notaires qui s'occupait de cette coopérative a reçu un appel d'un de ses confrères qui lui a dit « Vous m'embêtez vraiment avec votre nouvelle coopérative parce que moi, maintenant, les logements que je dois vendre, eh bien, je dois en baisser le prix parce que sinon, je suis plus concurrentiel. » Donc, c'est exactement ça le but, c'est d'avoir finalement une marge qui tire le marché vers le bas.
parce que ces loyers modérés ressemblent à s'y méprendre à d'autres appartements de standing. Il ne s'agit pas de faire construire des HLM à gauche et à droite.
Non, pas du tout. Alors, dans les normes de l'Office fédéral du logement, il y a des normes, notamment sur les respects des normes écologiques. On ne peut pas faire n'importe quoi écologiquement. C'est vraiment l'idée d'avoir des logements durables. De même, il n'y a plus d'aide à la personne. L'idée n'est pas de construire cher et ensuite de subventionner les gens. Non, l'idée est de construire à un prix raisonnable, moins cher que des loyers, que des logements de luxe, et puis ensuite de soustraire simplement ces logements à la logique spéculative.
Alors Nadia qui est avec moi joue ce soir les agentes immobilières. Elle va nous présenter quelques biens qu'elle va nous faire imaginer, puisque on n'a pas les photos.
On n'a pas les photos, mais surtout on n'a pas la notion de ce qu'est un loyer modéré, Gabriel.
On peut imaginer qu'il existe des chiffres, mais on va peut-être essayer de s'en rendre compte un peu mieux avec des exemples actuellement en ligne sur Internet.
Exactement. Alors, je suis allée sur un site bien connu d'immobilier et puis j'ai trouvé un appartement à Neuchâtel. Il est situé à la rue du Seillon, donc au centre-ville de Neuchâtel.
On ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il n'y a qu'une seule photo, mais c'est un duplex en fait. Donc, il y a des escaliers, évidemment. Et puis, c'est un loyer qui est de 2000 francs par mois pour un 3 pièces et demi. Alors bon, il y a quand même des bonnes infrastructures, hein, deux chambres à coucher, une grande salle de bain avec baignoire, un WC lavabo, une cheminée, une cuisine agencée, un lave-vaisselle.
On espère bien.
Un balcon et une mansarde.
Pour le prix de ?
Pour le prix de 2000 francs.
Ça, Baptiste Turny, si vous-même vous cherchez un appartement, vous qui êtes très au fait de ces questions, est-ce que vous pensez que c'est un bon prix ?
Oh, il faut toujours voir un objet. Alors là, je vais peut-être faire aussi mon agent immobilier, mais il faut quand même voir un objet avant de décider. Moi, ça me paraît être un prix qui est relativement élevé. Il lui fallut préciser si c'était avec ou sans charge. Si on imagine que c'est sans les charges, eh bien, c'est un loyer qui paraît aujourd'hui relativement élevé. Mais surtout, l'idée n'est encore une fois pas d'enlever tous les objets de prestige du marché. C'est pas du tout ça l'idée de cette initiative. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des familles, notamment, qui peinent à se loger. Il y a des familles qui doivent déménager pour aller dans des endroits excentrés. Et ça, nous, on veut pas. On veut qui est une base de loyer modéré.
Alors c'est loyer net, hein, donc c'est avec les charges.
On va s'excentrer du coup.
On va partir ailleurs, on va partir à La Chaux-de-Fonds, tiens. À La Chaux-de-Fonds, à la rue Numadreau.
Bon, alors on ne s'excentre pas, là, on est dans un autre centre. Moi je pensais plutôt à Boudry, mais allons à La Chaux-de-Fonds.
Alors comme vous voulez, non, on va rester à La Chaux-de-Fonds, juste parce que là j'ai trouvé un 3 pièces et demi pour 800 francs, brut cette fois, donc les charges ne sont pas comprises. Mais là aussi, alors bon, il n'y a pas de lave-vaisselle. Il y a trois chambres, il n'y a pas de balcon, mais il y a un parquet d'origine.
Du cachet probablement, dans cette ville de La Chaux-de-Fonds. Baptiste Turny, la question qu'il y a derrière cette visite d'appartement à La Chaux-de-Fonds, c'est le niveau des loyers dans le canton, très variable, on le voit.
Oui.
Est-ce que votre initiative a encore un sens dans ce contexte ?
Alors, elle a totalement son sens, d'abord, parce que ce qu'on voit, c'est que les loyers, effectivement, à La Chaux-de-Fonds sont plus bas qu'à Neuchâtel. Il ne faudrait pas que ça ait pour conséquence que les gens qui ont moins de moyens aillent à La Chaux-de-Fonds et les gens qui en ont plus aillent à Neuchâtel, ce serait catastrophique pour la cohésion cantonale. Donc ça a tout son sens. Et puis alors, effectivement, cette initiative a beaucoup plus de sens à Neuchâtel ou sur le littoral où les loyers sont plus élevés. Elle a encore plus de sens à Lausanne ou à Genève qu'à La Chaux-de-Fonds ou au Val-de-Travers où on peut encore se loger à des coûts relativement raisonnables.
Alors on parle littoral, ben on va aller à Boudry. Pour un 3 pièces et demi, 1900 francs de loyer brut. C'est un 90 mètres carrés. Alors, tout simplement, 3 pièces et demi, hein, surface de 90 mètres carrés. Il y a une cave, place de parc privée. Cet appartement est moderne, calme et lumineux, on nous dit, plein sud. Alors, beaucoup de soleil toute l'année. C'est au quatrième étage d'un immeuble. Il y a une salle de bain avec douche et une avec baignoire. Tout est équipé. Un lave-vaisselle, évidemment. Internet, un abonnement TV avec environ 450 chaînes. C'est possible.
Waouh! Et ça, rappelez-nous le prix, Nadia.
1900 francs.
D'accord, mais ça, c'est brut.
Ça, c'est brut.
Et les charges ?
Les charges. Alors, on ne nous le dit pas.
D'accord, donc on peut imaginer 300 francs de plus, donc plus de 2000 francs, c'est ça ?
Plus de 2000, ouais.
Plus de 2000 francs pour habiter au quatrième étage d'un immeuble à Boudry, est-ce que ça vous semble...
450 chaînes, Gabriel.
450 chaînes, peut-être. Est-ce que, Baptiste Turny, ça vous semble aussi un peu surfait ? Est-ce que c'est aussi par rapport à ce genre de prix que vous souhaitez agir ?
Ouais, écoutez, je ne suis pas agent immobilier, donc est-ce que c'est surfait ou pas, j'en sais rien, ça semble un peu cher effectivement comme ça. Encore une fois, il faut surtout voir ce qu'il y avait là avant. Est-ce que c'est un appartement qui a été rénové? Est-ce que c'est un appartement qui avant coûtait beaucoup moins cher, où il y a des gens qui ont moins de moyens qui pouvaient y être et qui ne peuvent plus y être maintenant? C'est ça finalement la question. Puis la deuxième question qui est sous-jacente et qui est peut-être encore plus importante, c'est quel est le rendement que tire le propriétaire de ce bien? On sait aujourd'hui, et c'est une des raisons de cette initiative, que normalement, le rendement sur fonds propres, il ne peut pas dépasser 2,25%. Or, vous prenez même le rapport de la caisse de pension de l'État de Neuchâtel qui annonce des rendements plus élevés que ça, donc qui sont excessifs. Et nous, ce qu'on dit finalement avec cette initiative, c'est qu'on veut combattre les loyers chers, on veut finalement trouver une bonne application de la loi telle qu'elle est aujourd'hui.
C'est peut-être un peu technique, mais si je vous ai bien compris, vous aimeriez avec cette initiative aussi que des caisses de pension ne puissent pas se faire de l'argent sur le dos des locataires.
Alors, disons que les caisses de pension, moi j'attends d'elles, par exemple, qu'elles respectent au moins ce qu'il y a aujourd'hui dans le code des obligations, c'est-à-dire effectivement un rendement net sur fonds propres, c'est un peu technique, de 2,25% maximum. Et d'après mon expérience, ce n'est pas toujours le cas. La caisse de pension de l'État de Neuchâtel n'étant pas moins bonne qu'une autre sur la question. Et puis, c'est difficile comme question, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les caisses de pension, elles n'ont plus grand-chose qui rapporte. Hein.
Si cette initiative ne devait pas passer, alors le débat n'est qu'entamé, puisque vous venez de la déposer, mais si cette initiative devait connaître un échec dans les urnes, est-ce qu'il y a une chance que, comme dans le canton de Vaud ou d'autres cantons, vous lanciez une initiative cantonale?
Alors, au niveau du canton de Neuchâtel, je dirais que c'est pas vraiment, parce qu'on a une loi sur l'aide au logement dans le canton de Neuchâtel qui est assez exemplaire en la matière, qui permet vraiment à des coopératives de se développer aujourd'hui. Et il y a encore aujourd'hui, disons, quelque argent pour le faire. C'est clair que si demain cette loi devait être mise aux oubliettes avec d'autres mesures d'économie du Conseil d'État, ça pourrait faire sens. Mais aujourd'hui, à Neuchâtel, il y a un relativement bon système. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'il y ait des terrains qui puissent se libérer. Et là, le droit de préemption pourrait être très intéressant.
Merci beaucoup Baptiste Turny d'être venu nous parler donc du but visé par cette initiative et du marché de l'immobilier neuchâtelois. On rappelle que vous êtes membre des comités neuchâtelois et suisses de l'association suisse des locataires qui dispense aussi plein de conseils pour payer moins cher, pas forcément attendre l'avènement de cette initiative. Bonne suite de soirée et à bientôt.
À bientôt, merci, au revoir.
Gabriel, merci beaucoup d'avoir participé avec moi avec cette émission.
C'est un plaisir et j'ai peur de vous perdre parce que je pense que vous allez faire des envieux dans les agences immobilières.
Ah, mais je vais me reconvertir, vous aurez quelqu'un d'autre à ma place la semaine prochaine.
C'est tout ce que je redoute.
Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site rtn.ch.
Place publique.